recherche du corps en français étant extrêmement vaste, nous avons choisi de vous faire essayer de vous faire découvrir des textes que vous ne connaissez peut-être moins que d'autres. C'est-à-dire qu'il y aura pas mal de textes québécois, mais bon, on a essayé d'être égal. Dieu ou les dieux n'ont pas de corps, ou alors ils les ont tous. Si le projet caché de la science-fiction est de réaliser la promesse du serpent, vous serez comme des dieux. Elle doit donc débarrasser l'humain de son corps, de sa chair, de sa viande. Il lui aura fallu plus d'un siècle pour y arriver, presque. Dans les SF de l'âge d'or, le corps est absent. Du moins, est-ce seulement le corps conquérant, dont la main met le pied dans toute la galaxie. Ça bouge, ça se bat, c'est blessé, décorativement, en général à la poitrine. Et quelquefois, ça meurt de manière spectaculaire, par des compressions, par exemple, les périls de l'astronaute. Ça mange rarement, ça boit pas mal, et ça ne baisera pas avant les années 60. Quant au reste des fonctions biologiques, glissées mortelles, et là on parle essentiellement du corps neutre, donc masculin, parce que les personnages féminins se dénombrent au compte-gouttes, et sauf sur les couvertures des magazines, ils ont, telle Suzanne Calvin, très peu de corps.
Et pourtant, le problème du corps est présent, c'est un refoulé qui ne cesse de se pointer le nez. Que ce soit les doppelgangers voleurs d'identité, comme le robot humanoïde, l'androïde ou le mutant de la race qui nous supplantera, tous munis de corps plus performants que l'humain normal, ou l'autre, autre, également doppelganger assassin, lorsqu'il est métamorphe et prend aussi notre corps et notre place. C'est qu'il y a cette question obstinément dualiste qui ne cesse de volter partout. Est-ce notre corps ou notre esprit qui nous rend humains? Avec l'apparition du cyborg, ce mélange organo-technologique, ça se gâte. À partir de quelle quantité, quel pourcentage de technologie cesse-t-on de le percevoir comme humain? Où commence la Uncanny Valley dont on a parlé à propos des robots humanoïdes au Japon? Le cheval dans la locomotive ou le cerveau prisonnier de la machine qui pilote?
Alors, un extrait de La mer allée, qui est le cinquième volume de Tyrannaël de Vollenbourg. Il s'agit d'une cyborgisation, on dit cyborgisation, en action. Une fois le corps écorché sur presque toute sa face antérieure, surtout le torse et l'abdomen, les bras manipulateurs se retirent, la table auxiliaire s'écarte. Une autre table surgit avec d'autres conteneurs où dans un liquide transparent flottent des fragments plus ou moins gros de matière blanchâtre à l'aspect mou à la surface sanguinolente. D'autres bras s'allongent. Ils s'affairent maintenant à effeuiller la chair pour mettre plus en évidence, à certains endroits, le réseau profond des veines et des artères et le réseau lymphatique. Des incisions sont faites, surtout au niveau du muscle cardiaque. Du sang coule maintenant, avec lenteur, étanché par des bras aspirateurs. Deux autres bras fleurissent en une série de pinces minuscules qui vont saisir des fragments de matière blanchâtre dans les conteneurs et les introduisent un à un dans les conduits ainsi ouverts. Pendant ce temps, deux bras sinueux semblent s'employer à larder tout le corps, à l'aide d'une aiguille très longue et très fine, d'un curieux fil blanc, étincelant comme de l'argent, qu'elle faufile le long des principaux vaisseaux sanguins, des tendons, des os et de la colonne vertébrale, là où ils ont été mis à nu. Un cinquième bras s'est allongé et replié pour être parallèle au corps, en dessous et hors du chemin des autres bras, pour fixer le fil dans leur sillage avec de minuscules gouttes d'un liquide couleur de sang qui se décolore et semble se fondre dans les tissus avoisinants. Ensuite, il va y avoir la matrice technoscientifique de l'organique. D'abord fantasmée, vous vous rappelez, « It's alive !» Frankenstein, puis concrétisée, la génétique et compagnie, déclenchant de nouveaux rêves et cauchemars, avec de loin en loin, mais de plus en plus présents, quelques questionnements éthiques. Voici un texte tiré d'Yves Ménard, d'une nouvelle qui s'appelle « Sur la plage des épaves ». Ce sont des colons qui sont arrivés sur une planète qui devait être hospitalière et qui l'est nettement moins que ce qu'ils espéraient. Beaucoup plus tard dans le futur. Le matin après la tempête, Valir trouva une main sur la plage. Le derme avait disparu, rongé par la flore bactérienne de l'océan extraterrestre. Dégagé de sa gangue de chair, le plaste de la paume avait l'air neuf. Les doigts, à quatre joints, qui avaient passé tout ce temps sous le sable du fond, étaient érodés et crevassés. Les lèvres soudées par un sourire désabusé, Valir ramassa la main et s'amusa distraitement à plier et replier le doigt du milieu. La conception avait été soignée. Malgré les décennies, les articulations en mousse de plaste avaient résisté à l'action corrosive de l'eau salée. Ils ont été victimes en particulier d'un virus. Le virus aurait pu nous éliminer tous, mais nous avons eu de la chance. Je crois que pas un d'entre nous n'a oublié ce court règne de la peur en plein Éden. Nous avons retenu la leçon. Le biologique, c'est sale, glissant. La chair est faible, mais on ne peut pas s'y fier. Tandis que le plast, c'est propre et contrôlable. Et il peut faire tellement de choses. Le plast ne se confondait pas, il y en a encore un mot. Le plast ne se confondait pas avec l'organique et il était plus performant de toute façon. Les implants en plast répartis dans tout le corps générèrent les enzymes voulues et il devint possible de sortir à l'air libre et de respirer sans crainte. Ça peut toujours autant, mais les colons n'en étaient plus à sa près. Le plast était pratiquement invulnérable aux formes de vie indigènes. C'était un matériau miracle, solide, résistant, léger, intelligent, actif au niveau nanoscopique. Évidemment, ça se garde après.
Et alors qu'on n'avait pas encore digéré ça, voilà le virtuel qui embarque. Avatar, intelligence artificielle, réalité virtuelle et autres joyeusetés. On ne répare plus le corps, on ne l'amplifie plus, on le laisse derrière pour sauter à pieds joints dans la matrice. Hourra, ce coup-ci, on est vraiment délivré du corps, on redevient triomphant. Un extrait de La Serre et l'Ombrelle de Gérard Klimt. C'est le but du texte. Il sent une goutte de sueur couler entre ses omoplates, naître une démangeaison. Il s'efforce de l'oublier. Ici, on ne peut pas aisément se gratter. Pourtant, il ne plane pas dans l'espace, serti dans un scaphandre, chevauchant une fusée impossiblement rapide et docile. Il se déplace dans un espace électronique, abstrait, celui des données collectées en temps réel par tous les réseaux d'observation. Il voyage dans l'infosphère et non dans la réalité. Il saute d'un point de vue à un autre, le temps qu'un circuit lui obéisse. Il surveille la Terre entière, les ceintures de Van Allen, les émissions solaires, la haute atmosphère, à travers les yeux de la Lune. Il regarde les continents depuis les plateformes géostationnaires qui dessinent un mince collier autour de l'équateur. Il survole les baies, les deltas, les déserts, les monts, les champs, les forêts et les villes. Sur un geste, un mot, un claquement de langue, un grattement d'ongles, les machines remplacent inlassablement une image par une autre, règlent une focale, lui donne l'impression enivrante de plonger de 900 km d'altitude, de 36 000 km de distance au fond de l'univers jusqu'à la surface de la Terre. Donc on est vraiment délivré du corps, comme on le voit, on redevient triomphant. Vraiment? La libération de la chair ne s'accompagne pas nécessairement d'une amélioration de l'esprit. Un extrait maintenant de la nouvelle de Laurent McAllister, qui est le symbionyme de Yves Ménard et Jean-Louis Trudel, donc il y a pour titre le Pierrot diffracté, avec l'insistance sur le mot diffracté. Le Pierrot vide le contenu de sa seconde seringue dans les veines d'Armeline. Elle ressent à peine la piqûre. Puis il enfonce la lame dans l'épaule comme un bûcheron qui entaille un arbre de sa hache. Une sérame aux lames aurait séparé du même coup le membre du tronc, mais la lame du Pierrot ne fait que taillader profondément chairs et cartilages. Il recommence, puis se met assis du poignet, poussant le coutelas au creux de l'articulation, sectionnant les os et les tendons. Il a sûrement débranché ses circuits auditifs et le décrescendo des cris rapant la gorge d'Armeline ne doit lui parvenir que comme la plainte ténue d'un insecte qu'on décortique. D'ailleurs, Armeline cesse bientôt de hurler. Donc on voit que le Pierrot est virtuel, Armeline est virtuelle, mais il n'empêche que... aïe!
On aura beau y faire, même dans le virtuel, le corps n'est pas éternel. Par exemple, on peut y mourir par personne interposée, ce qui... et une simple transposition de ce qu'on trouve, les gens qui sont accrochés à leur ordinateur et qui oublient leurs besoins les plus élémentaires, qui se retrouvent à l'état de momie dans certains films de science-fiction, mais aussi dans certains cas un petit peu moins graves dans la vie dite réelle. Un extrait d'une nouvelle de Daniel Cernin, qui s'appelle Yajin et la mort. Il s'agit de courses automobiles sur la lune Io, enfin automobiles, de véhicules particulièrement performants, brum brum. Et les spectateurs, qui parient bien entendu, sont en partage virtuel avec les conducteurs. Et voici ce qui se passe à la fin de cette course. C'est le dernier des conducteurs, et ils ont tous fait la même chose. Le sol d'Io s'ouvre soudain devant vous. L'appareil de kit joue disparaît à vos yeux, ses rétros déjà allumés. Vous tournez à gauche en amorçant la plongée, vous ne faites rien pour freiner. Sur votre gauche, la falaise rousse défile. Vous survolez Kitju qui a choisi un piquet freiné mais presque vertical. L'ourlet de dioxyde de soufre gelé qui s'étire au pied de l'escarpement vous éblouit de sa blancheur bleutée. Lisse, sans relief, il n'offre pas d'indice visuel de son niveau. Un coup d'œil à l'altimètre vous glace d'épouvante. Rétrofusez au maximum, coupez les propulseurs, donnez pleine puissance aux altiveurs, c'est trop tard. Vous le comprenez? Lorsque le sol glacé fracasse le ventre de votre bolide et que l'univers s'écrase en grinçant avec vous au milieu. Tous les pilotes se sont tués et il y a plusieurs morts dans le public. Et donc, on pourrait dire qu'à l'âge de fer de la science-fiction, les années 80, il n'y a pas vraiment de corps nouvellement triomphant. Il va falloir arriver à l'âge de plastique, maintenant, pour en explorer plus avant les apories soi-disant post-humaines, et pour pouvoir mettre quantité de texte où le corps tient une place de premier plan, remis en contexte dans l'espace-temps, c'est-à-dire qu'il n'est plus juste un élément du décor, mais vraiment un élément du récit. Deux textes, un texte de Jean-Jacques Guyenne et un texte de Richard Canal, qui sont tirés tous les deux de Escale sur l'horizon, l'anthologie historique de Serge Eman, et tous les deux portant un titre qui renvoie à l'amour, évidemment c'est un clin d'œil ironique, mais c'est aussi un contraste très révélateur. Le texte de Nguyen s'appelle « L'amour au temps du silicium » et faites ceci à un moment donné, vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. « Les premiers jours, j'ai passé l'essentiel de mon temps à émerger du coma pour y replonger aussitôt. L'implant synthétique contenant l'enregistrement de ma mémoire construisait l'interface avec mon corps d'emprunt. Des millions de connexions s'établissaient entre la partie biologique du cerveau, fournie avec les nouveaux corps pour contrôler ses processus vitaux, et les circuits de l'implant. À l'instar d'un nouveau-né, j'avais besoin de dormir pour faciliter la croissance des circuits neuraux. L'implant savait exactement quel réseau activer pour rétablir les fonctions corporelles. Une personne amputée d'un bras peut encore sentir sa présence, lui donner l'ordre de bouger, avoir l'illusion de plier le coude ou d'écarter les doigts de la main. Il en était de même pour mon cerveau synthétique. Contenant l'intégralité de ma mémoire, il n'avait rien oublié des processus corporels de base. Il lui suffisait d'imaginer une action pour recréer les connexions adéquates, après quoi il se lance dans des fantaisies masturbatoires. » Le texte de Richard Canal, qui s'intitule « Dernier embarquement pour Cythère », c'est un petit peu la même chose, on a un anima qui est en contact avec le cerveau d'une des expérimentatrices. Des messages chimiques, constitués d'enzymes généralement utilisées dans la duplication des molécules ARN, brouillaient l'espace autour de la double hélice Watson-Crick de l'anima. C'était hallucinant. Plus Erilka évoquait sa passion pour faire scène, plus les réactions enzymatiques de type Q se multipliaient, synthétisant des séries complètes de nucléotides qui venaient s'incorporer à la double hélice des acides nucléiques. Comment un anima pouvait-il modifier sa structure chimique à l'évocation d'un simple concept? Comment une suite d'échanges électriques dans le cerveau d'un être immergé dans un monde qui n'existait pas pouvait-elle influencer un modèle mathématique?
Mais tout cela, tout ce qui précède, c'est une des histoires possibles de la SF. Car en parallèle, depuis les années 60, sous les plumes des écrivaines et dans la virtualité que constitue la fiction, on n'avait évidemment pas attendu pour faire revenir le corps triomphant, les conquérantes ou les battantes, comme Girelle de Joiry ou Alix de Joanna Russ. Le corps nié par la technologie, mais qui essaie de se faire entendre, comme the Ship Who Sang, le vaisseau qui chantait dans le café. Le corps martyrisé par la technologie, mais revendicateur, The Girl Who Was Plugged In de James Tiptree, qui a été traduit sous le très mauvais titre Une fille branchée. Dans les années 70 et 80 au Québec, on aura Esther Rochon, Le corps, dans toute son épaisseur, sa lourdeur, que ce soit son poids de faute et de punition. Alors, dans l'extrait de l'âme que je vais vous lire, on est dans un enfer de science-fiction. Les mains froides, les pieds froids, le reste de son corps énorme, immonde, lieu insatiable de désir, juché incongruement sur un tabouret trop petit, elle siégeait à l'entrée des enfers. Les nouveaux arrivants étaient horrifiés en l'apercevant. Leur corps n'était qu'à peine transformé. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient devenir, à quel mépris d'eux-mêmes ils allaient bientôt accéder. Elle leur annonçait la couleur. Ici, ils ne souffriraient pas. On leur retirait tout accès à la splendeur, rien de plus. On leur interdisait la dignité, mais cela n'allait pas plus loin. Ceux qui se retrouvaient ici n'avaient pas fait grand mal. Ils étaient condamnés à la médiocrité. Il n'y avait pas de musique dans ce monde capotant, ni de poésie, ni livre, ni film, ni journal. Elle avait aimé beaucoup lire. Pour un temps, elle pouvait alors s'imaginer belle, désirée ou bien héroïque. Ici, en ce lieu irréel, impossible d'entretenir de telles illusions. C'était paradoxal. Le lieu d'avant, qui se targuait d'être un monde concret où s'appliquaient les lois physiques identifiables, avait aussi constitué une piste d'envol vers l'absence. Il y avait été si facile de se faire faux bon, de se déserter soi-même. Ici, la seule piste d'envol menait vers les zones dangereuses de sa propre jouissance. C'était une piste praticable. Elle conduisait à devenir l'arbre, la bouche seule émergeant de la boue, le corps pâteux étayé et colonisé de l'intérieur par ses minuscules gardiens surnommés fourmis. Il y aurait eu aussi un autre extrait d'Esther Rochon qui aurait pu être intéressant à lire, c'est-à-dire Coquillage, dans la laideur transcendée. Je vais plutôt lire un extrait du corps dans ses transformations révélatrices, un extrait du roman Les Jours de l'ombre, le début du roman Les Jours de l'ombre de Francine Pelletier. Le jour où l'œil commença à lui pousser, Chat Emma sut qu'elle devait partir, quitter le village avant de jeter le déshonneur sur sa famille, son clan. Il ne s'agissait encore que d'une toute petite bosse sur le sein gauche, un léger enflement sensible au toucher, que Chat Emma tâtait avec douceur devant le miroir de sa chambre. Avec un geste caressant pour ses seins, elle se redressa et contempla sa propre image. La bosse n'était pas encore très visible, mais Emma savait que cela ne tarderait pas à enfler, que la mince ligne d'une paupière s'y dessinerait, car elle avait déjà vu un œil pareil, dans le dos de sa mère. Le toucher innocent d'une enfant, une question naïve. « Qu'est-ce que tu as là, maman? » Et cette pâleur soudaine sur le visage de sa mère. Oui, Emma connaissait. Quelques jours après, sa mère était partie, on avait trouvé son corps au fond d'un ravin. Donc, cette mutation corporelle va avoir toutes sortes de répercussions, à la fois sur le personnage du roman et sur le monde au complet. Donc, il y a eu la question du corps, du genre et de l'identité humaine dans Bonarbourg, comme les métamorphes, thème relativement classique, les artefacts du cycle de Bailly-Blanca ou l'angoisse de la perte du corps dans cette version du virtuel qui est le rêve.
Et un extrait du Silence de la Cité, puisqu'on l'a cité. C'est le dernier affrontement entre Elisa, la protagoniste, et son père créateur, Paul. Il claque des doigts. Tout le corps d'Elisa sursaute comme on manque une marche en rêve. Et elle sent un picotement, un fourmillement. Non, une intense chaleur et l'impression de couler. La sensation est si forte, si intense qu'elle regarde ses cuisses horrifiées en pensant qu'elle ne contrôle plus sa vessie. Son sexe est en train de se résorber. Sur sa poitrine, ses poils disparaissent. Des seins poussent. Dans tout son corps, la masse de muscles et de chair se réorganise, les bras, le dos, les cuisses, le ventre. Stupéfaite, horrifiée, elle essaie d'arrêter le processus, de contrôler ce corps qui change malgré elle, mais elle ne peut pas, son corps ne lui obéit pas. Il doit y avoir une explication. Elle touche son corps transformé, elle le reconnaît, mais ce n'est pas possible. Paul a claqué des doigts et elle s'est métamorphosée, ce n'est pas possible. C'est bien toi, Elisa, dit la voix souriante de Paul. C'est ce que tu es vraiment, tu le sais, et je le sais. Qui peut le savoir mieux que moi? Je t'ai faite, Elisa, et je t'ai faite femme. Tu es à moi, tu ne peux être qu'à moi, avec moi, tu vois bien, j'arrive, et tu redeviens toi-même. Elle se touche encore, elle se regarde, les seins épanouis, les hanches rondes. Ce n'est pas moi. C'est l'autre Elisa, l'Elisa de Paul, oui, mais ce n'est pas moi. La panique reflue. Il doit y avoir une explication rationnelle. Depuis combien de temps Paul est-il là? Combien de temps a-t-elle dormi? Cette sensation de paralysie au réveil? Drogué. Il a dû la droguer. Il a réussi à avoir accès aux images cachées par des bras et il l'a suggestionné à son tour. Il l'a suggestionné à répondre à son signal à lui. Et son esprit à elle, endormi, est allé chercher l'image que Paul s'est toujours faite d'elle. Le corps voluptueux, hyper féminin, quasi maternel. Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas elle. Ça n'a jamais été elle. Et ce n'est pas à elle qu'il est en train de parler. C'est au fantôme d'une Elisa qui est morte aussi. Une Elisa aimante, naïve, celle qu'il a toujours manipulée à sa guise, celle qui aurait évidemment été subjuguée par cette démonstration de son pouvoir sur elle. Il ne sait pas qu'elle n'existe plus. En France, renouant aussi avec le motif du métamorphe, mais avec un déplacement significatif d'accent, on a bien sûr le personnage de Célène dans Chromoville de Joël Lattrebert, avec son très beau début, je n'oublie pas le début, qui commence par statue de chair éclaboussée de rouge. On passe au protagoniste, puisque ça c'était une espèce de prologue. Il pleuvait, le corps liquide de la ville s'estompait dans la brume, l'heure grise recouvrait tout d'un masque. À côté, au vide, sur la plus haute terrasse de la plus haute tour, le jeune homme frissonna. Il lui semblait soudain que la ville se mettait à couler vers le bas, et il désirait furieusement couler avec elle. La règle l'interdisait, mais il avait souvent passé outre. Abandonner son corps en sentinelle était l'enfance de l'art pour un corège. Dans un froissement mouillé, un grand oiseau déchira la nuée, Célène décida de le suivre. Ses bras écartés se tétanisèrent un instant avant de s'affaisser en douceur. Sur la terrasse, le corps abandonné ressemblait à une statue de marbre, aux yeux clos. Célène tombait. Il s'était accordé à la pluie, tellement que cette pensée lui vient. Je pleux sur la ville. Moi, Célène, je suis la pluie. Ensuite, au cours d'une soirée branchée, Célène rencontre une étaillère qui l'a beaucoup troublée, une femme, et il choisit, puisqu'il doit faire une performance, donner une performance, il choisit de l'imiter. Il l'imite une première fois en parodie, mais ensuite, sérieusement. Il s'était déconcentré, la figure de la fille devenait floue. Il s'attacha à la reproduire, mais cette fois sans caricature, le plus finement possible. Des murmures d'admiration accompagnèrent cette élaboration. Lorsqu'il eut terminé, le corège entreprit de créer un autre double à l'étalire. Un nouvel être ressemblant trait pour trait à la fille surgit du néant. Mais celui-là était nu et de sexe masculin. Très doucement, il enlaça son alter ego féminin. Les deux figures se brouillèrent comme les statues de cire coulant sous la flamme. Lorsque l'image redevint nette, il ne restait qu'une étaillée et son corps nu était hermaphrodite. À cheval sur les deux dernières décennies, on trouve toute une variété donc, de textes qui déclinent le motif du corps, inclus dans la narration et qui la rendent possible.
On a par exemple le métamorphisme permis par la technologie avec l'immortalité ambiguë à la clé. Je vous lis un court extrait d'un texte intitulé Autoportrait, vraiment très court extrait. Le jour où Dorian fit don de son pénis au musée de la ville, j'étais seule à l'accompagner. Il y a aussi, c'est un extrait de Jean-Claude Thiers.
Autoportrait. C'est l'insipide.
Il y a aussi les retombées psychosociologiques, par exemple. Ah oui, c'est ça. Donc, un texte un petit peu plus long de Jean-Claude Dugnac cette fois, intitulé Histoire d'amour avec chute. Le visage de Nian, surimposé au mien, me nargue en boucle d'animation continue. Un clin d'œil suivi d'une moue. Le texte de l'invitation s'inscrit sur ses joues en idéogramme clignotant. Elle fête ses nouveaux seins et compte sur ma présence. Pour ses 20 ans, son père lui a offert les essais en soufflerie nécessaires ainsi que l'aide d'un cabinet de design industriel. J'ai testé en virtuel les modèles possibles et contribué à sculpter les ovoïdes crémeux pour les rendre plus aérodynamiques. Avec des data gloves, qu'est-ce que vous croyez? Nian et moi ne sommes pas amants, tout juste voisins de réseau. Mais l'idée de base, une poitrine qu'il suffit de lécher pour que jaillisse de nouveaux mamelons et de moi. La disposition des grains de beauté en constellation le long du sillon me doit aussi quelque chose. Mon nom est gravé sur la biopuce incrustée sous la peau, côté droit. Copyright 2037, tout droit réservé. C'est mon premier vrai travail dans le domaine, mais j'en suis assez satisfait. Si ces seins plaisent, je toucherai les droits d'auteur. Nian a tout ce qu'il faut pour être à la mode. Elle surfe au sommet de la vague depuis plus longtemps que n'importe qui. Cela me laisse avec mon propre problème. Je suis 100% intact, l'article originel brut de la matrice. Parfaitement démodé. La fascination du corps de l'autre aussi est complètement autre pour des relations interraciales avec une vengeance. Par exemple, ici, un texte de Sylvie Lainé, Les yeux d'Elsa, où Elsa, en fait, comme on va découvrir, est un dauphin. J'ai posé ma main sur sa tête, tout doucement, sur ses yeux gris refermés. Je suis descendue lentement. Et soudain, des profondeurs de son larynx, juste sous ma paume, est monté un chant incroyablement musical, très haut, modulé, vibrant. J'en ai tressailli dans tout mon corps d'émotions pures. Mon autre main s'est rapprochée de la première, instinctivement. Elles se sont rejointes et j'ai étreint la base de sa tête, son corps souple et puissant, et le chant est monté encore plus haut, me transperçant comme un appel surhumain. Je me suis allongée contre elle, sur elle, et elle a chanté si beau, si fort, qu'il n'y avait plus rien au monde que son chant qui montait et qui m'emportait, et mon corps qui vibrait contre le sien avec sa chanson d'amour pure, si haut, si haut. Elle m'a fait monter très haut, moi aussi, si haut que j'en ai gémi puis crié avec elle, dans une incroyable explosion de jouissance enfin libérée. Il y a aussi l'appropriation dévorante du corps de l'autre. Un extrait maintenant de mon propre texte, oui, Terre des autres. En fait, deux extraits qui vont se suivre, qui sont de narrateurs différents. Ils se mirent à se caresser comme deux créatures qui se retrouvent après une longue séparation. Elle se retrouva finalement sur le ventre et il grimpa sur elle. Elle sentit son sexe, si elle un de ses deux pénis, qui la pénétrait et d'un gémissement, elle l'enjoignait de continuer en enroulant sa queue tout autour de lui. Il s'enfonça plus profondément en elle et elle gémit de nouveau, cette fois de satisfaction. Elle sentit ses pattes puissantes la gripper à bras-le-corps. Même s'il était plus petit qu'elle, il n'en était pas moins formidablement puissant. Il lui mordilla la crête et alors le plaisir se diffusa dans tous ses membres. À présent, il comprenait pourquoi cette partie de son anatomie d'emprunt était si sensible. C'était aussi une zone incroyablement érogène. Elle souleva le bas de son corps et il se mit à aller et venir en elle en mordant plus fort sa crête, et cette sensation était la plus délicieuse qu'elle eût connue depuis longtemps. Elle se demanda un instant de quelle couleur pouvait bien être leurs deux fanons, puis elle sentit comme une chaleur dans son ventre et oublia de se poser des questions. Aussitôt, il enfonça son second pénis en elle et le plaisir crut d'un cran puis éclata. Plus jamais après ce soir-là, ils ne s'accouplèrent. La période de rut se résorbait, mais Sam ne doutait pas que les Darcy fussent capables d'avoir des rapports sexuels, même en dehors des périodes de reproduction. Si elle avait bien compris, ici vraiment Claire avait des relations sexuelles avec des individus de son propre sexe, cela était le signe que cette espèce était suffisamment évoluée pour distinguer la reproduction de l'accouplement. Un autre extrait du même roman avec un autre point de vue. Son bras droit a beaucoup repoussé. Chaque jour, au lever du lyrst, lorsqu'elle se sent encore seule au monde dans le camp, elle mesure ses progrès. Déjà, il a perdu un peu de cette couleur tendre des premiers bourgeons et les tissus sont presque entièrement fonctionnels. Elle en fait travailler les muscles, elle en mesure l'élasticité des tendons. Elle contemple sa surface dans l'aube naissante. Bien sûr, c'est encore un petit bras réticule, celui d'un enfant, mais il ne faudra qu'une dizaine de jours encore pour qu'elle obtienne encore un beau bras de darse bien conformé. Un beau bras à jeter en pâture à ses bourreaux. Elle reste prostrée dans son enclos, regardant ses membres pousser pour rien, ou en tout cas pas pour elle. Ils ont bien dû lui couper chaque jambe et chaque bras deux ou trois fois, mais elle s'est vite lassée du décompte funeste. Elle a fini par comprendre que, au lieu de la charcuter tout d'un coup bien proprement, on la dégusterait à petite dose et que ses bras, ses jambes, sa queue deviendraient une nourriture de choix au sein du clan, un mets distribué aux élites, comme une plante exotique qu'on laisse croître pour le plaisir d'en déguster les jeunes pousses.
Il y a aussi, bien sûr, la nostalgie, la fusion avec l'autre, une fusion qui, dans le texte de Jean-Claude Duniac, trace nos traces dans la neige, passe par le corps, et uniquement par le corps. Il s'agit d'extraterrestres qui sont perdus sur la planète qui est la nôtre, je pense, et ce n'est pas E.T. for home du tout. Ils se donnent rendez-vous, à des rendez-vous rituels sur la montagne, en haute montagne, dans la neige, pour se retrouver de temps en temps avec leur véritable moi, qui est le moi collectif. Et voilà comment ça commence. Lorsque les derniers rayons du soleil nous inondent, je commence à me dissoudre. Je n'ai plus d'enveloppe, plus de frontières. La tresse m'a englouti. J'ai vidé mes cavités des sensations accumulées depuis notre dernière rencontre sans pouvoir me retenir. Le liquide s'écoule hors de mes récepteurs vers la poche amniotique qui se forme au centre de nos corps soudés. Peu à peu, les informations s'ordonnent, le liquide s'éclaircit. Puis vient l'instant merveilleux où ma fibre principale effleure une corolle qui ne m'appartient pas. Les récepteurs chimiques dialoguent et s'accordent, nos filaments se nouent, d'autres fibres se lovent amoureusement autour de la mienne, des tourbillons agitent la poche afin de hâter le processus. Nous ne jouons pas à nous dérober, à nous faire désirer comme autrefois. L'urgence de nos besoins est telle que nos corolles s'enchevêtrent sans attendre, avec une hâte qui confine à la maladresse. Les nœuds se forment. Pour un moment, nous avons cessé d'être seuls.
Il y a aussi la participation au corps de l'autre, mais d'une façon virtuelle que la télépathie de l'âge d'or n'avait pas vraiment explorée comme telle. Alors, je vous lis un court extrait de la saga d'Elige, de moi aussi. Donc, c'est la saga d'Elige qui se déroule dans un futur pas très loin de chez nous. J'ai appris avec le temps qu'il est plus efficace de laisser les spectateurs me découvrir peu à peu. Pour moi aussi, l'effet d'un dépouillement graduel est plus puissant. Il m'arrive parfois de me sentir écorchée vive lorsque, graduellement, le public me dépouille des habits qui me recouvrent. Pourtant, ce soir, je ne porte pas de vêtements à proprement parler. Je me suis plutôt vaporisé le corps d'une fine couche de latex qui remonte le long de mon cou, en longue traînée et ne laisse que ma tête découverte. Du latex rouge, comme l'image de sang qui m'obsède, une fine couche veloutée qui me recouvre comme un vêtement trop ajusté. Indécent, qu'il faudra m'arracher ou me découper sur le corps afin de m'exposer. Cela promet d'être intéressant. Aujourd'hui, je serai une marchandise sur la chaîne de montage, comme croit en avoir décidé le public, influencée par la musique industrielle qui se répercute maintenant à tue-tête sur les murs de la salle de cinéma désaffectée. Le couteau a déchiré un pan de latex dans mon dos, comme si c'était mon épiderme qui l'entaillait. J'ai perçu le frisson de mon auditoire lorsque ma peau nue, vulnérable, humide, attendrie, s'est révélée. Les lanières de cuir mottent maintenant ma chair, leur bruit numérisé me fait sursauter à chaque coup, et bientôt, le public m'a devant lui tel qu'il me veut, un morceau de chair consentante qui leur renvoie l'image de leur propre puissance. Je sais qu'ils goûtent chaque nouvelle rougeur sur ma peau, chacun de mes gémissements, toute nouvelle réaction physique que je ne peux leur cacher. C'est sans doute pour mieux contempler mon plaisir anticipé que très vite la lame progresse jusqu'à mon entrejambe, coupant en deux mon corps de latex, révélant mon sexe lubrifié. Moi, en proie à la souffrance, je savoure la force que leur confère ma reddition.
Le fait est que malgré tous les prestiges de la technologie, on n'arrive pas à faire disparaître le corps. Il ressurgit sans cesse, que ce soit dans la science-fiction francophone ou anglophone, quoique celle-ci soit peut-être allée plus loin dans l'effacement de l'organique avec par exemple la Greg Egan. Même le corps artificiel a une âme dans la science-fiction. Ça commence très tôt avec les androïdes, par exemple de Sylvia Bell dans La Tour de Verre. Bon. Et s'il meurt, ce corps artificiel, ben, c'est qu'il a existé, il a vécu. Un dernier extrait de Von Arbour, la maison de la maison au bord de la mer. Dans le parc aux colibris, la dormeuse dormait, nonchalante, en plein soleil. Le marcheur s'est arrêté et avec cette impossible lenteur, il a commencé à s'asseoir près d'elle, mais cette fois le mouvement a continué. Il s'est replié contre elle, il a posé sa tête au creux du bras sur lequel la dormeuse appuyait la sienne. Il a fermé les yeux, le mouvement s'est arrêté. Et la suiveuse s'est assise près du marcheur, enfin arrivée, et elle a regardé sa chair devenir pierre, comme l'éclosion à la surface de la peau d'un lent et ultime frémissement venu des profondeurs, et puis ce raidissement imperceptible, tandis que les cellules se vidaient de leur substance sublimée, et que leurs parois se minéralisaient, rapide comme l'ombre d'un nuage, l'extinction de la vie. C'est que le corps, la matière du corps, c'est toujours fantasmatiquement la matière du réel, et que l'imaginaire n'est pas prêt à renoncer à celle-ci, sinon à celle-là. Comme le dit l'un des protagonistes de Dunyac dans la nouvelle L'âge d'or du réel, elle commence ainsi, « J'ai vécu l'âge d'or du réel », implicitement il est donc terminé, mais je ne peux toujours pas marcher sans trébucher. Et ceci sur les lèvres d'un mécano, qui est une espèce de créature absolument hallucinante. La forme qu'il arbore depuis son arrivée sur l'astéroïde est celle d'une chenille hérissée d'excroissances diverses. Il n'y a personne pour le voir. Au fil des millénaires, il a été successivement nuage d'énergie, fonction d'ondes complexes, tissage fractal de nuances de gris, semblable à l'écume d'une vague quantique. La réalité corporelle de ce mécano nous échappe pas mal. Et cette phrase de Dunyac, « J'ai vécu l'âge d'or du réel, mais je ne peux toujours pas marcher sans trébucher », m'a curieusement rappelé cette phrase de Madame du Deffand au XIXe siècle, au moment où naît le fantastique, le genre fantastique, quand elle disait, avec la schizoïdie caractéristique du fantasmatique, « Je ne crois pas aux fantômes, mais j'en ai peur. » qu'on pourrait adapter aujourd'hui pour le sujet de notre lecture, hein. J'ai un corps, mais je ne suis pas sûr de l'être. » Ou si vous voulez, à l'inverse, « Je suis un corps, mais je ne suis pas sûr de l'avoir. » Merci. Et on peut aller manger maintenant.